Bien vivre ici, une émission de La Voix du Béarn en partenariat avec le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Pyrénées-Atlantiques. Renaud Barès, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes le directeur du CAUE 64. Je vais vous laisser déchiffrer ce sigle, qui n'est peut-être pas transparent pour l'ensemble de nos auditeurs, et vous laisser ensuite nous présenter cet organisme dont vous êtes le directeur.
Alors, le CAUE, ça veut dire Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Donc, les CAUE, parce que normalement, il y en a un par département, ont été créés par la loi sur l'architecture de 1977. Et le CAUE des Pyrénées-Atlantiques est le plus ancien, le premier qui a été créé dès 1978, dès février 1978. Et donc, ce sont des structures un peu originales parce qu'elles délivrent un service public et en même temps, elles sont de droit privé puisqu'elles sont sous forme associative. Mais associatives très encadrées puisqu'elles ont toutes les mêmes statuts, des statuts nationaux, donc elles font toutes la même chose, c'est-à-dire quatre missions. La première, en tout cas celle qui nous a vu naître, c'est celle du conseil aux particuliers, c'est-à-dire que n'importe qui peut nous demander un rendez-vous et avoir un entretien avec un architecte ou un paysagiste de l'équipe, donc un professionnel qui lui donnera des conseils sur son projet à tout stade du projet, au moment où on achète le terrain, au moment où on souhaite construire, où on souhaite rénover, où on souhaite aménager son jardin, ses espaces extérieurs. Donc on aura un conseil gratuit et complètement indépendant, puisque les CAUE sont financés par une taxe sur les permis de construire. Donc nous n'avons ni gaz ni électricité à vendre. Donc on n'a vraiment aucun intérêt dans les conseils qu'on vous donne. Ça, c'est la mission qui nous a vu naître. Celle qui nous occupe le plus, c'est la mission de conseil aux collectivités. Donc, collectivité, ça veut dire en grande partie les communes, donc les maires qui nous demandent, mais il y a aussi les EPCI, donc les communautés de communes, communautés d'agglomération, et évidemment le département, qui est notre premier partenaire, puisque sans la volonté d'un département de créer un CAUE, il n'y a pas de CAUE, et sans sa volonté de créer une taxe, la taxe d'aménagement, à l'époque la TD, la taxe départementale, on ne peut pas financer un CAUE. Donc les communes nous demandent nos conseils sur architecture, urbanisme, environnement, paysage, donc sur leur projet, et on va les accompagner en amont du projet pour leur donner les meilleurs conseils possibles pour qu'ils puissent faire une commande la plus qualitative possible, et puis on les accompagne aussi pour choisir le bon maître d'œuvre, le bon architecte, le bon paysagiste, le bon urbaniste pour faire que leur projet soit le mieux possible. La troisième mission, c'est une mission de formation professionnelle. Donc ça s'adresse aux professionnels du cadre de vie, pas seulement les architectes ou les paysagistes, mais ça peut toucher aux techniciens des collectivités, voilà, c'est assez large. Et puis la dernière mission, qui est plus connue du grand public, c'est celle de la sensibilisation. Alors la sensibilisation, ça commence dans les écoles parce que les enfants sont les futurs habitants, donc il faut commencer par eux pour les sensibiliser sur ce qu'est la qualité du cadre de vie. Et puis ça touche évidemment tous les publics. Donc quand on fait des visites, quand on organise des expositions, quand on fait les enfants du patrimoine par exemple, ou on fait les journées du patrimoine un jour à l'avance, à destination des enfants, ou quand on fait nos grandes actions comme Cinespace ou les rendez-vous de l'urbanisme, évidemment, ça touche l'ensemble des publics.
Et toutes ces missions, ça représente quand même pas mal de travail. Le CAUE, c'est quel effectif en personnel ?
Alors le CAUE des Pyrénées-Atlantiques, on est 17 actuellement, donc une grande partie de l'équipe, le siège est basé à Pau, la préfecture, hein, c'est assez logique. Le gros de l'équipe est à Pau, mais il y a une équipe importante aussi qui se trouve à Bayonne. Évidemment, comme c'est un département bicéphale, il y a une partie de l'équipe qui se trouve à Bayonne, mais c'est bien une seule équipe. Il n'y a pas le CAUE de Pau et le CAUE de Bayonne, c'est bien une seule équipe. Et cette équipe-là, elle est composée, évidemment, évidemment d'architectes, d'urbanistes, de paysagistes, mais aussi des autres compétences nécessaires dans une association. Alors il y a particulièrement pour une association comme la nôtre une documentaliste, parce qu'on a un centre de documentation ouvert à tous qui est basé à Pau, donc vous pouvez venir et consulter tous les documents que l'on a. Il y a beaucoup de livres, de vidéos, et il y a aussi une graphiste, parce qu'évidemment on produit des documents, et puis secrétariat, comptabilité, ce qu'on peut retrouver évidemment dans une structure comme la nôtre.
Bien vivre ici, en collaboration avec le CAUE des Pyrénées-Atlantiques.
Alors aujourd'hui, avec des constructions modernes, bon, on a peut-être perdu la typicité des constructions de notre département, mais est-ce que par rapport à d'autres départements en France, nous avons davantage de particularismes locaux entre les constructions de type béarnais et les constructions de type basque, par exemple ?
Alors dans tous les départements de France, je dirais plutôt les régions, parce que les départements, c'est une limite administrative qui n'a pas de cohérence géographique, il y a des particularités dans la construction, en tout cas dans la construction qu'on dit traditionnelle, parce que de toute façon, elle était adaptée aux matériaux qu'on pouvait trouver, et puis au climat. Évidemment, plus on était en climat pluvieux, et plus les toitures étaient en pente. Et voilà, donc ces particularités-là, elles existent dans l'ensemble des départements. Par contre, le maintien de ces particularités n'est pas le même dans tous les départements. Je dirais qu'ici, évidemment, tout le monde est témoin que l'architecture basque est encore très présente. Et même, alors, ce qui produit la qualité des paysages côté basque, parce qu'il y a une certaine unité architecturale, ce qui fait aussi qu'on peut se dire qu'on a du mal à dépasser ce modèle, parce que la création contemporaine en Pays basque est quand même assez difficile. Parce qu'il y a toujours ce modèle de la maison à enduit blanc avec les volets rouges, ou voilà, le rouge, le vert, le blanc. On a du mal un peu à sortir de ça. Et puis on se rapproche un petit peu du pastiche, parce que on reprend des éléments qui à l'époque étaient en bois, parce que c'était la structure qui faisait que c'était en bois, donc des éléments de structure qui deviennent des éléments de décor. Alors c'est pas forcément inintéressant, mais il n'y a pas que ça, et c'est difficile de ne pas faire du Disneyland, quoi, de ne pas faire du faux qui ressemble à du vrai, et comment du coup ne pas dévaloriser le patrimoine en faisant du faux patrimoine. Ça, c'est un petit peu compliqué, ça reste un sujet très fort en Pays basque, parce qu'il y a une conscience aussi des paysages qui fait qu'on souhaite absolument les préserver, ce qui est quand même très, très positif, mais ça peut créer aussi un certain enfermement. Côté béarnais, évidemment, il y a une typologie béarnaise qui est très différente, il y a des toitures qui sont très différentes aussi, des matériaux en toiture qui ne sont pas les mêmes, etc. Mais c'est vrai que cette architecture traditionnelle béarnaise, elle est moins présente dans les constructions actuelles. Alors est-ce que c'est pour le mieux ou pour le moins bien ? Ça, c'est assez difficile à dire. Mais elle est moins présente. Après, avant de reprendre des éléments d'architecture, reprenons plutôt des éléments de composition, de la manière dont on s'insérait par exemple dans la pente, de la manière dont on savait se protéger des vents, dont on savait capter l'énergie solaire en s'orientant de manière intelligente. C'est plutôt ces éléments-là qui paraissent intéressants à reproduire plutôt qu'une image qui, encore une fois, est une image liée à une époque. À l'époque où a été inventée l'architecture traditionnelle béarnaise ou basque, il se posait absolument pas la question de se dire on reproduit un modèle. On n'était pas dans la reproduction d'un modèle, on était dans la reproduction d'une technique et des matériaux disponibles. Donc voilà, après, ces problèmes de modèles sont exacerbés plutôt dans le sud de la France, où le modèle dit provençal est allé se répandre absolument partout, parce que ça donne une image de vacances, ensoleillées, etc. Et ça a créé beaucoup, beaucoup de dégâts dans d'autres départements. Donc, et ici, on n'est pas trop touché par le modèle provençal qui, heureusement, n'est pas trop, est très, très, très peu présent.
Je reviens peut-être en arrière sur un élément dont vous avez parlé, mais je vais vous demander de faire un peu plus long. Vous avez dit qu'on avait une habitude d'utiliser le relief pour se protéger des vents, d'orienter les maisons pour se chauffer naturellement avec le soleil. Est-ce que ça c'est un peu plus oublié aujourd'hui, ou est-ce que c'est plus difficile parce que les constructions nouvelles sont souvent dans des lotissements, par exemple ?
Alors, c'est pas plus difficile, c'est le fait que on a beaucoup dessiné des lotissements sans du tout tenir compte justement du climat local. Donc, bien orienter une maison, c'est pas plus difficile qu'avant. Bien s'inscrire dans la pente, c'est pas plus difficile qu'avant. Simplement, alors sur l'inscription dans la pente, le problème, c'est qu'on a inventé une machine assez infernale qui est la pelle mécanique, qui permet de manière très facile et sans trop d'efforts de transformer un terrain en pente en terrain plat, ce qui crée des images dans le paysage qui sont assez problématiques, hein, avec des enrochements énormes qui sont qui créent une esthétique de paysage qui est assez dramatique. Et en fait, jusqu'à une époque récente, jusqu'à l'invention de la pelle mécanique, en fait, on adaptait la maison au terrain et on n'adaptait pas le terrain à la maison. Aujourd'hui, on fait l'inverse, on part de maisons de catalogue en gros, et on les pose sur un terrain en pente qui devient un terrain plat. Et voilà, et d'un point de vue paysager, c'est quand même vraiment pas terrible. Après, le fait de savoir capter le soleil l'hiver sans protéger l'été, ben c'est quelque chose qui a été en fait un peu perdu, tout simplement parce qu'on a cru, notamment avec l'arrivée du chauffage maîtrisé, de la climatisation, etc., on a cru que la technique allait nous permettre de ne plus en avoir besoin. Et en fait, on se rend compte, et ça devient exacerbé évidemment avec la guerre en Ukraine et les difficultés qu'on a dans l'approvision en énergie, on se rend compte à quel point, ben, finalement, l'énergie solaire, qui est une énergie gratuite et non taxée, ce serait quand même plus qu'intéressant de pouvoir en bénéficier. En sachant que le soleil nous donne chaque année 10 000 fois l'énergie dont on a besoin. Donc, évidemment, c'est pas très facile de la capter complètement. C'est même, pour l'instant, on sait pas le faire. Mais par contre, réchauffer naturellement une maison, un bureau, etc., ça, on sait le faire. Après, ce qu'il faut savoir faire aussi, c'est savoir s'en protéger l'été. Et ça, c'est un sujet qui était assez peu présent, même dans les réglementations en France, puisque les réglementations thermiques qui se sont succédées depuis la crise pétrolière, enfin les crises pétrolières, tenaient compte du confort d'hiver, mais pas du tout du confort d'été. Et du coup, on se disait, ben, on mettra une climatisation. Et évidemment, la climatisation, c'est beaucoup d'énergie consommée. On sait quand on met en marche les clims, c'est tout le monde au même moment, que les centrales nucléaires ne savent pas le gérer, donc on met en marche des centrales à pétrole au mieux, à charbon au pire. Donc voilà, donc on n'est vraiment pas dans le développement durable. On n'est vraiment pas dans le développement durable. Et la ventilation naturelle, par exemple, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Les maisons anciennes bénéficiaient aussi de ce qu'on appelle l'inertie, c'est-à-dire des murs très lourds, des murs en pierre, qui emmagasinent la fraîcheur la nuit et qui savent la restituer le jour. Si tant est qu'on ait conservé des volets et qu'on puisse créer de la pénombre, ce que savaient faire nos grands-parents, qu'on a complètement oublié aujourd'hui. Et puis c'est vrai qu'on a inventé aussi, par exemple, des systèmes de volets comme les volets roulants, qui rendent difficile le fait de pouvoir créer des courants d'air la nuit. Parce que le volet roulant, c'est ouvert ou fermé, alors que le volet, il peut être entrouvert. Donc on voit bien que des améliorations peuvent créer aussi peuvent faire perdre des qualités. Et ce qui est aussi un sujet très important, c'est la manière dont on rénove l'existant. Parce que l'existant, c'est quand même très intéressant par rapport à la transition écologique nécessaire et urgente, parce que c'est du bâti qui existe déjà. Et il faut savoir que quand on construit un bâtiment neuf, on consomme deux fois plus de CO2 qu'un bâtiment existant, on consomme 40 fois plus de matière. Quand on voit aujourd'hui qu'on a des pénuries de matière qui sont extrêmement importantes, et puis que quand même la Terre est un monde fini, donc faisons avec l'existant, mais pour autant, faisons avec l'existant en lui conservant ses qualités d'hier et en lui apportant les qualités d'aujourd'hui. Je veux dire par là qu'une maison en pierre, si on l'isole de manière moderne, et notamment en l'isolant par l'intérieur avec... Alors, quel que soit le matériau, si on l'isole par l'intérieur, en tout cas dans un usage de résidence principale, on va évidemment lui améliorer son confort d'hiver, mais on va lui faire perdre tout confort d'été. On sait qu'une maison... on a fait des études, qu'une maison... même une maison des années 70 en briques non isolées, vous l'isolez par l'intérieur, du jour au lendemain, vous doublez le nombre de jours d'inconfort d'été. Donc ça, évidemment, on ne le dit à personne. On vous vend du matériau, on vous dit, vous allez voir le confort d'hiver, vous allez faire beaucoup d'économies d'énergie. Oui, mais vous allez avoir... quand on voit l'été qu'on a eu l'an dernier, et malheureusement, celui qui arrive risque d'être encore plus difficile, on voit bien à quel point c'est un sujet extrêmement important. Pour autant, il existe des solutions qui permettent d'avoir un bon confort d'hiver et de conserver ce confort d'été qu'apportaient les matériaux anciens, les matériaux lourds. Par exemple, les enduits de chaux-chanvre. Voilà, il y a plusieurs systèmes. Et c'est pareil aussi quand on isole la toiture, selon les matériaux qu'on utilise. On a un confort d'hiver et un confort d'été qui ne sont pas les mêmes. Je prends un exemple classique. L'isolation en laine de verre, qui est l'isolation la plus répandue en toiture, c'est une isolation qui fonctionne très bien l'hiver, mais qui fonctionne très mal l'été. Pour avoir un bon confort d'été en laine de verre, il faudrait mettre 70 cm de laine de verre sur son toit, ce que personne ne fait jamais. Et il faudrait mettre 90 cm de polystyrène. Donc vous voyez bien que c'est pas du tout la même chose, le confort d'hiver et le confort d'été. Par contre, si vous utilisez des matériaux qui ont un fort déphasage, c'est-à-dire qui mettent du temps à faire rentrer l'énergie solaire dans la maison, vous aurez un très bon confort d'été. Par exemple, la laine de bois, la ouate de cellulose, mais il y en a d'autres. Donc le choix des matériaux est aussi extrêmement important. Il est important aussi dans le bâti existant, et notamment le bâti avant 1945, en gros le bâti traditionnel en pierre, parce que ces constructions-là ont des murs qu'on dit respirants. Alors ça ne veut pas dire qu'ils font... Non, ça veut dire qu'en fait, la vapeur d'eau qui vient du sol se migre à travers le mur et s'évacue. Et à partir du moment où on va ajouter un isolant étanche, comme par exemple le polystyrène, eh bien évidemment, on va bloquer cette respiration naturelle du mur et on va avoir des sinistres avec du salpêtre, de l'humidité permanente. Et c'est le même cas aussi, évidemment, quand on utilise sur ce bâti ancien des enduits non respirants et notamment des enduits à base de ciment. Et le ciment était une révolution au 19e et 20e siècle. On l'a énormément utilisé, mais parfois vraiment à tort.
Alors tout cela nous fait une belle somme de sujets très techniques, Renaud Barrès. Je pense que vous allez avoir beaucoup de demandes dans les jours et les semaines qui viennent, parce que vous allez intriguer certaines personnes, en inquiéter d'autres, donc vous allez avoir besoin de donner beaucoup d'informations, mais c'est votre rôle. Je vous propose de faire une pause et de se retrouver dans quelques instants. On changera un peu de chapitre, mais en continuant de parler de ce Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Pyrénées-Atlantiques.
Agité comme un roseau dans la tourmente, tout m'énerve et tout mérite en ce moment. Le monde me désenchante par ce beau jour de printemps. Fatigué, désabusé, sans courage, impatiente, je ne sais plus ce qui m'attend. Je sens arriver l'orage par ce beau jour de printemps. Je voudrais me sentir loin d'ici, fuir la vie de chaque jour. Et peut-être en m'évadant d'un ainsi, y trouverai-je de l'amour? Les bourgeons des marronniers de mon enfance, la jacinthe, l'aubépine et les lilas blancs, en vain chante leur romance. Douterais-tu du printemps? Tout est si joyeux, pourtant je suis si malheureuse. D'où me vient tout ce tourment?
Cette deuxième partie d'émission, nous allons nous intéresser un peu et beaucoup même à votre agenda culturel. Alors l'année a déjà commencé, mais ce mois de mars est encore en cours et puis on va s'intéresser peut-être au moins au début du mois d'avril. Quelles sont vos actualités ?
Alors l'actualité qui est la plus proche de nous, c'est le Salon de l'Habitat, Décoration et Jardin à Pau, donc qui a lieu du 25 au 27 mars, et donc on aura un stand, donc on pourra venir nous voir sur place, on peut prendre un rendez-vous en appelant le CAUE et vous aurez un conseil sur place, et en plus si vous êtes inscrit pour un conseil, vous avez une entrée gratuite, parce qu'on a des entrées gratuites pour les personnes qui viennent se faire conseiller sur notre stand, donc voilà, n'hésitez pas à passer. Ensuite, on a au mois de juin, le 3 juin, on va organiser des visites dans le cadre du rendez-vous au jardin. Donc on aura visite du jardin de pyrénéen du parc Beaumont et du jardin d'acclimatation. Donc ça c'est pareil, c'est sur inscription, donc il suffit d'appeler le CAUE, mais on refera évidemment de la communication quand on en sera là. Et puis après on arrivera au second semestre où on aura les enfants du patrimoine comme chaque année, les journées du patrimoine, etc. Voilà, ça sera la suite. Mais voilà, ce qui arrive vraiment vite, c'est d'abord le salon de l'habitat et ensuite les rendez-vous au jardin au mois de juin.
Nous avons parlé de beaucoup de techniques en première partie. Là, dans cette seconde partie, je vais peut-être vous demander de dédramatiser un peu les choses. Est-ce qu'il est compliqué de suivre vos conseils quand on vient vous voir? Est-ce qu'on n'est pas trop dérouté quand on vient se renseigner par rapport à une idée ou de construction neuve ou de rénovation? Parce que vous parlez de tellement de choses, vous soulevez tellement de risques que finalement, on pourrait se décourager.
Mais c'est justement l'intérêt de venir nous voir, parce que nous, on est là pour vous aider à faire que ce soit simple. Et nous, on est quand même plutôt attachés à la simplicité dans la manière dont on construit, dans la manière dont on rénove, plutôt que justement la technique qui demande toujours beaucoup d'entretien. Nous, on pense aujourd'hui, parce que les gens oublient même de nettoyer leur micro-ondes, que la technique vient à bout de tout et qu'elle demande aucun entretien. C'est absolument faux. Donc on a plutôt tendance à se dire qu'il vaut mieux utiliser des choses simples qui ont toujours existé, comme savoir entrouvrir ou fermer un volet plutôt que d'avoir tout électrique, etc. Plutôt que d'aller vers des choses très techniques. Et en plus, le problème des éléments trop techniques, en dehors même de leur coût, c'est qu'ils deviennent à un moment obsolètes. C'est-à-dire qu'on ne trouve plus les pièces détachées, on ne peut plus les remplacer, on ne peut plus les réparer. Alors que les choses assez simples, évidemment, elles sont toujours réparables et toujours modifiables. Et elle dure dans le temps, donc ça, on y est très attentif aussi. Donc c'est là aussi que vous avez quand même tout intérêt à venir nous voir. Et le fait, par exemple, de bien orienter un bâtiment, de savoir lui permettre de bien capter le soleil et de bien s'en protéger l'été, ça coûte pas plus cher. C'est juste un peu d'intelligence en amont, un peu de réflexion, de savoir observer le territoire dans lequel on vient habiter. Et ça, c'est pas du tout du surcoût. C'est au contraire des économies par la suite.
Et du confort de vie.
Absolument, au quotidien. Et le confort de vie, on pense aussi la plupart du temps au confort de vie dans le bâtiment, alors que la manière dont on dessine aussi le bâtiment offre ou n'offre pas du confort de vie à l'extérieur. Je veux dire par là que l'orientation d'une maison, la manière dont elle est dessinée, peut permettre de se protéger par exemple des vents dominants et du coup d'avoir un espace extérieur qui sera protégé des vents, qui sera très agréable pratiquement toute l'année, alors que si on n'en a pas du tout tenu compte, on peut se retrouver avec un espace extérieur qui est par exemple très chaud l'été, qui n'a jamais de... qui est en plein vent en moyenne saison, donc on ne peut pas l'utiliser non plus. Voilà, donc il y a beaucoup d'éléments dont il faut tenir compte en amont, et d'où l'intérêt d'avoir un conseil d'un professionnel dont c'est le métier avant de commencer.
Alors, je vais peut-être vous demander quelles sont les coordonnées du CEUE, parce que prendre rendez-vous, c'est bien, mais quand on ne sait pas comment en faire, c'est un peu plus compliqué, Renaud Barrès.
Alors, le CAUE, donc il y a un numéro unique que l'on prendra, quel que soit l'endroit où on souhaite avoir le rendez-vous, parce qu'on a des rendez-vous, on a des permanences à Pau et à Bayonne, mais on a aussi des permanences à Oloron, à Asparin, à Orthez. Donc voilà, donc selon l'endroit où vous habitez, on vous proposera d'avoir un rendez-vous le plus proche possible de l'endroit où vous habitez, en tout cas ce qui vous arrange. Donc le numéro de téléphone, c'est le 05 59 84 53 66. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail si vous fonctionnez plutôt comme ça. Donc c'est contact@caue64.fr. Et à Pau, on se trouve place Reine Marguerite, donc la place sur laquelle il y a une fontaine. On est sous les arcades. Et puis à Bayonne, on se trouve dans les locaux du département, dans la petite caserne. Mais par contre, il faut prendre rendez-vous. Si vous venez comme ça, vous ne pourrez pas malheureusement avoir un rendez-vous sur le champ.
Alors merci Renaud Barrès. Et puis nous pouvons annoncer à nos auditeurs que nous avons déjà pris rendez-vous pour une émission ultérieure, donc nous vous retrouverons avec plaisir dès la prochaine émission.
Merci beaucoup et puis donc à bientôt.
Bien vivre ici, une émission de La Voix du Béarn en partenariat avec le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Pyrénées-Atlantiques.